Eh, dis, pour une fois, on pourrait pas changer de radio, en écouter une autre ?
Non, Mimi, on n'écoute pas une autre radio, on écoute l'autre radio.
Vous riez comment ces temps-ci ? Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, pas du tout ? J'ai voulu vous apporter un peu de lumière dans l'agité d'hier, et bien aujourd'hui ça sera de la gaieté, même de l'humour, puisque mon invité d'aujourd'hui a créé le collectif Borderline Comedy Club, et vous serez forcément convaincus par la puissance de son humour, puisque vous la connaissez déjà. Et oui, avec moi aujourd'hui, en invité et chroniqueuse, Priscilla Mignard. Bonjour à vous Priscilla.
Bonjour Margot.
Et merci de venir nous parler de ce tout nouveau collectif. Et bien aussi, bienvenue à vous, amis auditeuristes. Encore une agitée du local qui s'annonce bien. Et je n'oublie pas de te saluer, Lucie. Bonjour à toi, comment vas-tu ?
Bonjour, il fait beau, ça va très bien.
On t'écoute pour l'actu en bref tout à l'heure. Et juste après toi, on écoute notre reportage Pensée locale de la semaine. Et on reste en Mayenne cette semaine, puisque je me suis rendue à Sainte-Suzanne, au tout jeune tiers-lieu, l'artisan gribouilleur, qui allie salon de tatouage, bar associatif, atelier polyvalent, bibliothèque et galerie d'art. Un très bel endroit avec un très chouette accueil. Je vous le fais découvrir en seconde partie d'émission. Et comme je vous l'ai annoncé, Priscilla est également avec nous pour sa chronique juridique, mais on le sait, quand c'est elle qui nous en parle, eh bien ça pique toujours aussi un petit peu. Priscilla, donc, vous êtes aussi ici avec nous pour nous parler du collectif Borderline Comedy Club que vous avez créé, qui a déjà proposé deux dates de scène ouverte de stand-up. La première a eu lieu au Jardin Bavarois le 6 mars à Laval et la seconde, c'était le 9 mars au Gardens Pub à Mayenne. Alors, ces premières dates, Priscilla, elles ont été couronnées de succès, on peut le dire ?
Oui, c'était attendu de toute façon.
Donc oui, ça s'est bien passé, c'est les toutes premières, on stresse peut-être un petit peu, voir un peu comment ça va se passer avant que ça commence.
Oui, vraiment, parce que là en plus pour la première fois j'étais ce qu'on appelle MC, donc maîtresse de cérémonie. J'ai souvent été maîtresse, mais de cérémonie pas toujours, c'était la première fois. Et donc oui, effectivement, il faut, y a l'accueil du public, on se demande s'il va y avoir du monde, et là c'était... plus que bien, puisqu'il n'y avait pas assez de place, donc c'est très bien. Et puis la gestion des artistes, etc., parce que les artistes sont des petits êtres capricieux, et donc il faut en prendre soin et les rassurer. Et puis comme je jouais en plus, j'avais la double casquette, donc un peu de stress, mais du stress positif.
Et justement, j'avais envie de vous demander pourquoi la création de ce collectif. Racontez-nous, parce que c'est vrai qu'en Mayenne, il y a des comédie clubs qui viennent à nous, qui viennent se produire ici. Mais nous, ici, nous n'avons pas encore de comédie club vraiment mayenne, il semblerait.
Alors, il y a des comédie clubs de Rennes ou d'Angers qui s'importent sur la Mayenne pour effectivement développer le stand-up, et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que moi, je manquais un peu de ça, parce que pour jouer, je joue justement dans les départements limitrophes, je pousse jusqu'à la Normandie, etc. Mais je me suis dit, c'est dommage, pourquoi je n'ai pas quelque chose à proximité pour jouer, d'où l'idée du Borderline Comedy Club.
Puis ça pouvait manquer aux habitants aussi, parce que c'est vrai qu'on connaît notamment au 11-22 où il y a souvent des dates de proposer pendant la saison estivale, mais finalement on a ce manque aussi, je pense, en Mayenne, on ne rit pas assez peut-être.
Non, je pense que d'une manière générale, on ne rit pas assez dans le monde, mais allez demander ça aux Russes, mais en Mayenne non plus, je pense que en fait... on rigole jamais trop, quoi. Donc, les dates qui sont déjà proposées, c'est bien. Tout ce qui va se rajouter, c'est bien. C'est vraiment... Pour moi, il n'y a pas de concurrence, quoi. On est tous là pour divertir.
Et alors, le stand-up français était principalement à ses tout débuts à Paris pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, il y en a partout en France. Les scènes ouvertes se développent. Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe une soirée ? Combien de temps chaque humoriste produit sur scène, par exemple ?
Alors... classiquement, on va être sur des formats entre 7 et 12-15 minutes maximum, avec des humoristes qui se succèdent. En fonction, on est entre 4 et 8. Après, effectivement, avec ou sans entracte, mais on est vraiment dans une ambiance décontractée, bienveillante. Et puis, c'est à la fois bienveillant pour le public... on évite de trop les attaquer hein, quand on intervient, c'est toujours gentil, quoi. Et gentil aussi, bienveillant vis-à-vis de l'artiste, parce qu'il y a des gens dont c'est les premières scènes, qui ont besoin effectivement de se roder, ou des gens qui ont un peu plus d'expérience, mais qui viennent tester des blagues, tester des nouveaux sketchs. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Souvent, on est sur des scènes ouvertes en plus non payantes. mais avec rétribution ou chapeau à la fin. Moi, ce que je dis souvent, si vous êtes rentré gratuitement, mais vous allez devoir payer pour ressortir, vous êtes nos prisonniers.
Et alors, les scènes ouvertes, c'est justement l'occasion de se lancer, mais aussi de découvrir des humoristes expérimentés ou moins expérimentés. Mmh. C'est chaque soir une surprise et une découverte, finalement.
Oui, totalement, totalement. Et ensuite, de suivre ces personnes-là éventuellement sur les réseaux pour pouvoir voir ce qu'elles font, etc., et leur donner la visibilité, parce que parfois, y a des artistes qui sont très talentueux, et je ne parle pas de moi, qui méritent d'être connus, qui ne le sont pas tant que ça, et qui sont super drôles, et puis ça permet effectivement de déboucher, ou des gens qui n'osaient pas, et puis qui se disent, tiens, j'y vais, et puis qui se trouvent une vocation, quoi.
Oui, parce que finalement, la scène de stand-up se développe énormément. Et pour trouver cette visibilité, c'est pas évident. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humoristes aujourd'hui.
Il y a beaucoup de concurrence. Et puis, il y a en plus la concurrence des réseaux, puisque les gens vont effectivement aussi faire des petits sketchs, balancer des choses sur les réseaux. Donc, pas évident. Moi, perso, j'aime bien... Bon, les réseaux sont utiles, hein, mais j'aime bien la scène. J'aime bien quand même le contact du public. J'aime bien le ressenti. Et puis, de les entendre rire, parce que quand on envoie une vidéo, on ne sait pas ce que ça donne. Les entendre rire en direct, c'est inégalable. Ouais.
Puis le contact avec le public, ça permet justement de tester aussi ses blagues, ses sketchs. Mmh. Et la réaction du public, ça apporte quelque chose. Ça donne une indication sur ce qu'on a imaginé et sur ce qu'on transmet finalement.
Ouais, totalement, totalement. Et je trouve qu'il y a un vrai transfert d'énergie. C'est-à-dire, nous, sur scène, on va donner de notre personne, mais ils nous rendent aussi. Et c'est des belles soirées.
Quelque chose de très important que vous avez mentionné tout à l'heure, c'est lors de ces scènes comme celles qui ont pu avoir lieu en Mayenne, c'est quelque chose de déterminant, c'est la bienveillance qui est essentielle lors de ces soirées, parce que c'est pas évident en fait de tester ces sketchs justement et de se retrouver face à un public, particulièrement notamment quand on commence la soirée, quand on ouvre la soirée, je trouve que c'est un moment, j'imagine, qui est particulièrement compliqué.
Alors c'est vrai qu'il y a souvent cette petite blague entre artistes de se dire qui passe en premier, parce qu'on se dit toujours que celui qui passe en premier, c'est celui qui va l'échauffer, qui essuie un peu les plâtres. Donc il y a un peu de ça, c'est vrai. La bienveillance, moi j'en parle quand c'est moi qui anime, entre guillemets, et je leur dis que quand une blague est pas bonne, on n'est pas obligé de rire, mais quand une blague est bonne, il faut rire, d'autant plus qu'il y a une légende, et j'y crois très fort, qui dit que quand on ne rit pas à une blague qui est bonne, quelque part dans le monde, il y a un néo-nazi qui naît. Et donc, je pense que personne ne veut être responsable de ça. Donc, quand c'est drôle, il faut rire.
Et donc, vous nous le disiez tout à l'heure, vous étiez donc MC. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est un maître de cérémonie pour ces soirées-là?
Alors, en fait, tout simplement, on présente le concept du stand-up parce que tout le monde ne connaît pas. On chauffe un petit peu chauffeur de salle pour motiver et puis leur dire vous êtes vraiment, vous n'êtes pas face à du théâtre classique, vous êtes face à un endroit, dans un lieu où vous allez rire, donc n'hésitez pas à rire, n'ayez pas peur du jugement du voisin, etc. Allez-y, et puis on présente les artistes au fur et à mesure, et puis à la fin, on revient tous pour les réseaux, les actualités, etc.
Et pour revenir à ces deux dates qui ont eu lieu donc au Jardin Bavarois et au Gardens Pub à Mayenne, combien d'humoristes se sont produits sur ces deux dates-là?
Alors, au Jardin Bavarois, nous étions 4 et 5 au Gardens. Donc moi c'est des formats qui me paraissent bien, ça permet aux gens de développer un petit peu parce qu'en 5 minutes par exemple c'est court, là ça fait 15 minutes à peu près par personne, c'est plutôt sympa et je trouve que ça permet quand même aussi de voir des profils différents, des humours différents, donc s'il y a un artiste dont on n'est pas trop, on n'est pas trop sensible à son humour, il y en a d'autres donc on peut, puis c'est très varié, de toute façon il y a un humour par personne quoi, donc...
Et on retrouve de plus en plus de femmes dans le stand-up. Je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que les thématiques abordées ne sont pas forcément les mêmes et le ton non plus n'est pas forcément le même.
Oui, alors c'est vrai que dans le stand-up, on a tendance à avoir quand même beaucoup d'hommes. Donc moi, je vois aussi quand je constitue les scènes ouvertes, c'est pas évident d'avoir des filles. Et puis elles sont prises très facilement, très rapidement du coup, puisqu'il y en a moins. Peut-être parce qu'il y a l'idée que... comme on en voit moins, même si c'est mieux, mais on en voit moins au niveau national, dans les représentations à la télévision, etc., je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui doivent se dire non, je peux pas, indirectement, inconsciemment, je peux pas, parce que c'est pas quelque chose qui m'est ouvert. Sur les thématiques, forcément, on a une vision autre. On a beaucoup de choses sur les charges mentales, même la vision du couple. Forcément, c'est drôle d'avoir un homme qui passe et qui parle du couple, et derrière d'avoir une femme qui donne sa vision à elle, c'est... C'est amusant, ouais.
Et justement, donc vous, Priscilla, vous montez également sur scène. Le stand-up, c'est quelque chose qui vous trottait dans la tête depuis un moment. Et vous vous êtes lancée en fait, sur des scènes ouvertes qui étaient plus sur les départements limitrophes, vous nous l'avez dit.
Oui, c'est ça. J'ai fait du théâtre pendant longtemps. J'avais envie d'autre chose. J'avais envie déjà de jouer mes propres textes. Parce que c'est important dans le stand-up, même si on est en France et qu'on est habitué à un certain nombre de plagiat et d'histoires pas très... L'important vraiment le stand-up, c'est d'écrire ses propres textes. D'ailleurs, on les vit mieux, je pense, on les joue mieux quand on joue ses textes. Moi, j'avais envie de jouer mes textes, d'avoir donné ma vision un peu sarcastique du monde. Et ça me trottait depuis un petit moment. Et là, effectivement, depuis la rentrée dernière, je me suis lancée.
Et alors, je me demandais, quand on écrit son passage sur scène, comment est-ce que vous procédez ? Est-ce que vous partez de notes prises au quotidien ? Certains artistes fonctionnent comme ça. Ou est-ce que vous partez d'événements personnels ? Ou est-ce que vous allez puiser des anecdotes ou des mimiques ou quelque chose qui vient des autres ?
Je puise beaucoup dans l'actualité, même si ce n'est pas forcément des sketchs liés à l'actualité, mais je puise là-dedans. J'aime bien m'imposer un peu des thématiques. Par exemple, quand il n'y a pas très longtemps, on fêtait l'anniversaire d'un comédie club, je suis partie sur le thème de l'anniversaire. Et puis, j'ai développé là-dessus, sur des choses que, même des petites choses que j'ai apprises sur des anecdotes sur les anniversaires ou alors sur les anniversaires que moi j'ai pu fêter. Et puis, de là, ça part un peu dans tout et n'importe quoi me concernant. Donc, je suis pas forcément dans l'anecdote personnelle, même si ça peut arriver, même s'il y a de la confidence aussi. Mais c'est tellement noir, c'est tellement sarcastique. Je pense que les gens comprennent que il y a beaucoup de fiction.
Dans cette émission, on aime bien parler de culture et d'art.
J'ai eu peur.
De culture et d'art. Et c'est souvent un mode d'expression. Des fois, c'est une manière. On se dit, tiens, c'est le bon endroit pour raconter des choses qu'on n'arriverait pas à raconter d'une autre manière. Est-ce que l'humour, c'est aussi un espace, un endroit où finalement on raconte des histoires sur un ton qui permet de mieux les raconter, mais aussi de mieux les recevoir pour le public ?
Oui, parce que je pense que l'humour, ça peut tout faire passer. Et ça permet d'aborder, moi je sais que j'aborde des thématiques pas forcément rigolotes, comme les violences, la pédophilie, ce genre de choses, et les travers sociaux. Et c'est vrai que c'est plus facile à faire passer sur le biais de l'humour. D'ailleurs, souvent, moi, ce que je remarque, c'est que quand je lance une vanne, il y a toujours un premier choc, et puis après, ça rit. Il y a les deux temps et c'est bien parce que c'est pas forcément des thèmes toujours drôles. Il y a des thèmes légers, mais parfois j'aborde des thèmes un peu plus durs. Et c'est une manière de les faire passer. Si j'en parlais de manière stricte et sérieuse, je suis pas sûre que ça passerait de la même manière.
Je me demandais également si le public est le même à chaque date. Est-ce qu'on s'attend à des... Enfin, j'imagine qu'on s'attend à certains moments à dire cette vanne-là, cette blague-là marche forcément. Mm-hmm. Mais il y a des tons, par exemple. Vous utilisez un ton plutôt sarcastique, un humour plutôt noir. Est-ce que le public réagit de la même manière selon l'endroit où on joue et où est-ce qu'on se dit, ici, je ne sais pas si ça va passer de la même manière.
Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des endroits où, effectivement, on sait que, par exemple, moi, personnellement, je sais qu'en ville, ça passe mieux. On va dire que peut-être que... Est-ce que le public est plus initié ou pas ? C'est vrai que quand je joue sur Rennes, il y a beaucoup de scènes stand-up. Les gens, en ont déjà vu. Donc, ils sont peut-être un peu plus habitués à cette liberté de ton. Il y a parfois des vannes, on ne sait pas pourquoi, ça, qui marchent bien partout et à un endroit... ça va pas marcher, on sait pas pourquoi. Et il y a des fois, des moments, c'est pas des vannes et ça marche. Donc là, on comprend encore moins, mais c'est vraiment assez... ça peut être fluctuant. Il y a quand même, généralement, quand ça marche bien un endroit, ça marche à peu près partout, mais parfois, on a des petites surprises. Mais moi, je me mets comme règle de pas m'adapter, en fait. J'ai un message, entre guillemets, à délivrer. J'ai un message, mais je le délivre. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. Mais c'est vrai que j'ai tendance à pas m'adapter.
Est-ce que vous réécrivez vos textes des fois ? Voilà, plusieurs dates où il y a un moment où on se dit, bon là, je pensais que ça allait avoir cet impact-là sur le public, ça fonctionne pas totalement. Est-ce que c'est l'occasion de se dire, bon, il faut que je reformule, il faut que je réécrive, il faut que je change le rythme ? Parce que l'humour, c'est aussi ça, c'est aussi un rythme parfois.
Alors, c'est plus en réaction à ce que moi, je ressens, en fait. plus que par rapport à, aux réactions du public. C'est souvent ce que moi je ressens quand je le joue. Je suis là, en fait, ça finalement j'aurais dit autrement, ou j'aurais glissé autrement, ou finalement, bah non, cette partie-là, moi j'ai vu de, sur mes, mes premiers sketchs, me dire en fait non, toute cette partie-là finalement, c'est pas besoin, j'ai pur. Ou, et c'est vrai que dans le stand-up, contrairement au, on va dire aux au comiques classiques qu'on avait plus l'habitude de voir, faut pas qu'il y ait de longueur, faut que ce soit quand même assez efficace. Et s'attarder sur un sujet, ça peut être un peu compliqué, et que souvent on va passer d'un sujet, d'un domaine à l'autre, parce qu'il y a une espèce, comme on dit, il y a un rythme, et c'est un peu plus, ça claque un peu plus. Et, donc oui, oui, par bah, entre mais le sketch première version et puis au bout de 10 fois, il peut avoir beaucoup changé.
Oui, parce que on le disait tout à l'heure, ça peut être 10 minutes de scène, mais finalement pendant 10 minutes, il faut garder l'attention de ce public. Mmh. Et puis une fois que peut-être la dynamique se perd, c'est pas forcément évident, j'imagine, de ressaisir l'attention.
Oui, oui, oui. Et puis ce qui peut être dur aussi, c'est quand le public, s'il commence à se dissiper, s'il commence à discuter entre eux, là, c'est... Après, c'est aussi dépendant des endroits, hein, effectivement. Quand on a des salles qui sont dédiées qu'à ça, les gens viennent effectivement que dans l'esprit d'écouter. C'est d'où l'importance du rythme. Je sais qu'il y a certains artistes, eux, vont par exemple beaucoup jouer du corps pour modifier le rythme. Moi, j'ai plutôt tendance à changer de ton ou de voix. Voilà, c'est vrai que chacun un petit peu fait avec ses atouts, on va dire.
Et donc, le collectif Borderline Comedy Club vient tout juste d'être créé. Il y a déjà eu 2 dates et il y en a une très bientôt qui arrive aussi.
Oui, le 5 avril au Beauty Bar Inclusive, donc qui est au niveau de... face au tribunal. Donc, vous pourrez venir rire. Vous ne serez pas jugé pour ça. Vous ne traverserez pas la route pour aller au tribunal. Et ça va être un plateau exclusivement féminin. Pour les artistes, en revanche, bien sûr, le public est ouvert à tous, hommes, femmes, non-genrés, tout le monde.
Et donc, pour suivre les actualités, les prochaines dates qui vont être annoncées, parce qu'il y en a déjà en cours de...
Il y a des choses en cours fixées. De validation, voilà.
C'est
ouais.
Ça. Où est-ce qu'on vous retrouve? C'est sur vos réseaux sociaux à vous, je crois.
Oui, principalement Instagram, Priscilla Mignard. Vous me suivez et puis voilà, vous aurez toutes les actualités.
Mais en tout cas, merci Priscilla d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir présenté le collectif. On vous retrouve tout à l'heure pour votre chronique juridique et qui souvent pique aussi dans cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et donc, je vous propose maintenant une pause musicale. Et comme on avait envie de se faire du bien, de vous faire du bien aujourd'hui, on écoute maintenant Jacques et sa chanson « Pourquoi c'est comme ça ?»
Mes plans se transforment sans cesse, se retrouvent toujours vides de sens. Deviennent de l'histoire ancienne, avant même d'entrer dans l'existence. Je vois des gens qui merdent, je vois des gens qui changent, je vois des gentils et des méchants qui se mélangent. Quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça. Mais je sais, je voulais savoir pourquoi c'est comme ça. Sur le visage d'en face, j'ai prononcé ton mot de passe. Des os de briser la glace, je suis cash mais c'est mon mode de pensée. Y'a des gens qui rient, y'a des gens qui pleurent, y'a des sentiments qui reviennent en replay. Quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça. Mais je sais, je voulais savoir. Pourquoi c'est comme ça? We'll be right back.
c'est parti pour les brèves, chers auditeurices. On commence par parler actu syndical. Tout d'abord, les syndicats de la fonction publique du département souhaitent se mobiliser pour réclamer une amélioration des salaires et au vu du contexte d'inflation actuelle. En effet, le gouvernement viendrait d'acter par décret une réduction de 10 milliards d'euros avec des coupes budgétaires dans les ministères. Elle se traduirait, selon les syndicats, par de nouvelles suppressions massives de postes dans la fonction publique, notamment chez les AESH par exemple. Et suite à ça, ils appellent à une grève et une manifestation le mardi 19 mars prochain. Le rendez-vous est donné à Laval à 11h30 à la Bourse du Travail. Un autre syndicat qui a des revendications, vous commencez à les connaître maintenant, c'est la FDSE à 53. Hier, mercredi 13 mars, ils ont communiqué à propos d'une session plénière tenue au Parlement européen par les eurodéputés le mardi 12 mars concernant les émissions industrielles et donc notamment les éleveurs avicoles et porcins. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais en résumé, selon eux, avec ce vote, cela présagerait, je cite, des mises aux normes des élevages porcins et avicoles à venir très compliqués, qui impacteraient surtout les élevages de taille modeste. À savoir que le texte voté concerne essentiellement l'obligation de respecter les objectifs de performance environnementale, donc la consommation d'eau, gestion de déchets, etc., avec des sanctions à la clé en cas de non-respect de ces obligations. Allez, à présent, cette semaine, c'est la dernière semaine pour candidater à la grande exposition du Fabriqué en France qui se tiendra à l'Élysée à la fin du mois de juin 2024. Ce sera la quatrième édition de cette exposition qui a pour but de mettre en valeur les produits issus de nos entreprises locales, tous secteurs confondus et venus de chacun de nos départements d'Hexagone et d'Outre-mer. La condition principale est d'être engagé dans une démarche de fabrication française, quelle qu'elle soit, et les candidats ont jusqu'au dimanche 17 mars, 23h59, attention c'est précis, pour déposer leur dossier. Pour celles et ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site economie.gouv.fr. Et un petit point sport avant de vous parler du soleil, pour les amateurs de vélo, ça y est, les organisateurs ont dévoilé les équipes et les têtes d'affiche présentes au départ de la 49e édition des Boucles de la Mayenne et il y aura notamment parmi eux Dylan Groenewegen. Je vous le disais, je vais vous parler du soleil aujourd'hui, chers auditeurs. Et oui, ça y est, Myriam, elle a enfin pu sortir sa petite veste de mi-saison qu'elle adore parce qu'aujourd'hui, il fait beau toute la journée et partout sur le territoire avec de très doux 16-17 degrés. Ce soir, c'est le retour des nuages parce que quand même, il ne faudrait pas prendre des coups de soleil. Et les températures passent par 13-14 degrés en soirée et iront jusqu'à 11 degrés dans la nuit. Attention, le vent sera avec nous d'ailleurs et jusqu'à demain soir au moins, avec des rafales qui vont souffler jusqu'à 40-50 km/h, voire 55 km/h. Et demain, du coup, toujours des nuages et même un peu de pluie, et oui. Dans le détail, on commencera la journée avec 11-12 degrés et les classiques pluies éparses dans le nord du département. Et l'après-midi, ça devrait être nuageux avec 14-15 degrés. Et le soir, plutôt 11 ou 12 degrés. Les rafales seront toujours là dans la journée, mais elles devraient s'arrêter la nuit pour laisser la place aux températures plus fraîches, entre 8 et 9 degrés. Enfin bon, rien qui va arrêter Myriam dans son plaisir de sortir ses plus belles tenues du placard, parce que oui, il y en a marre de s'habiller utile pour la pluie et le froid.
Étonnant, inspirant et accueillant, ces mots résument bien l'endroit où l'on se rend aujourd'hui pour notre reportage Pensée locale de la semaine, parce que depuis mai 2023, le tiers-lieu artisan Gribouilleur propose un espace de vie artistique et culturel rendu possible par une cagnotte participative. Il est situé dans la cité médiévale de Sainte-Suzanne, le site s'est développé autour du salon de tatouage de Samuel Olivier déjà existant. Aujourd'hui, on y retrouve une galerie d'art, une boutique de créateurs, un atelier artistique, mais aussi un bar associatif qui propose des produits locaux. Je suis allée sur place à la rencontre de Marie Boujarla. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
L'artisan Gribouilleur est un tiers-lieu situé à Sainte-Suzanne en Mayenne. Il a ouvert mi-mai 2023 dans le but d'apporter au territoire un espace différent en capacité d'accueillir diverses activités et à destination de tous les publics. Il tient à valoriser le dynamisme local et notamment des producteurs locaux grâce au bar associatif.
Je m'appelle Marie, je fais partie de la petite équipe qui gère et qui organise le lieu au quotidien et qui l'a fondé. pour l'instant, il s'appelle l'artisan gribouilleur. C'est peut-être voué à évoluer d'ailleurs, parce que c'était le nom du salon de tatouage à la base. Et que voilà, maintenant, c'est plus vraiment juste un salon de tatouage. Du coup, c'est un tiers-lieu qu'on a nommé culturel et artistique, parce que justement, on se positionne un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a envie d'être un lieu qui est au service de la communauté au sens large, qui n'est pas uniquement un lieu à viser de pratique et d'expo. Il y a un salon de tatouage, une galerie d'art, c'est un lieu qui accueille aussi une boutique d'art et un bar associatif et un atelier polyvalent.
Tout autour de nous, il y a énormément d'œuvres. Combien d'artistes exposent chez vous en ce moment ?
Alors en ce moment, on a une quinzaine d'artistes qui sont représentés, qui viennent tous soit du tatouage, soit du graffiti, qui viennent d'un petit peu partout en France. Et puis surtout qui viennent de techniques très, très différentes. Ça, c'est un truc qui nous fait vraiment plaisir. Et puis qui viennent d'univers très différents, même en tatouage. Là, on a un petit peu tout le monde de représenter. Et ça, c'est un gros, gros kiff pour nous.
Et donc, Sam s'occupe du salon de tatouage. Il était d'ailleurs déjà installé à Sainte-Suzanne avant la création de ce tiers-lieu.
Oui, oui, parce que c'est quand même, mine de rien, le truc qui supporte un petit peu tout l'édifice. Ne serait-ce que financièrement, c'est notre assurance de pouvoir gérer la vie quotidienne d'un lieu d'une taille pareille. Donc il y a quand même le salon de tatouage qui est un peu une pierre angulaire, qui a été super bien accueilli déjà l'année dernière, avant qu'on monte ce lieu-là. C'est quand même quelqu'un qui a 10 ans de pique derrière lui, qui a bossé à Paris et tout ça, qui fait un super beau boulot. Donc oui, on est quand même content de ce qu'on fait de ce côté-là aussi.
Et donc ce lieu existe aussi grâce à une campagne de financement participatif. Et puis des gens sont même venus vous soutenir par rapport aux travaux à faire dans le lieu.
Ça a été fou et heureusement parce qu'on n'aurait pas pu, à deux, trois, avec l'équipe des fondateurs, on n'aurait jamais réussi à assumer un truc pareil dans les temps, clairement. Oui, on a eu énormément de chance. Il y a eu des rencontres assez folles pendant le projet. Et oui, on a eu quelques anges gardiens comme ça qui nous ont un peu borné le chemin, heureusement.
Et donc l'artisan gribouilleur, c'est aussi un atelier polyvalent qui a été entièrement équipé grâce aux recettes du bar associatif.
Alors il a été équipé depuis des pratiques vraiment tout petits, c'est-à-dire un an et demi, des pâtes à modeler compatibles, des feutres compatibles, etc. et machin, jusqu'à des pratiques adultes avec du matériel qui peut être assez pointu et assez coûteux. Et tout ce matériel-là, il est en accès libre pour tous les adhérents. Toute la semaine dans un lieu qui est quand même ouvert au public sur des belles plages horaires. Donc ça, c'est un super beau pari. Enfin, on est super content d'avoir pu faire ça. Ça, c'est un point qui est très, très important pour nous, l'aspect ouvert du lieu. C'est-à-dire que en fait, il reste malheureusement pas beaucoup de choses gratuites et d'endroits gratuits où passer du temps. C'est un sentiment, je pense, qu'on partage dans le groupe. On est dans une période aussi où l'urbanisme fait qu'on essaie de supprimer tous les endroits où on traîne et où on perd du temps et où on n'est pas ni en mouvement ni en train d'acheter des choses. Et ça, c'était un truc vraiment important pour nous. C'est vraiment un endroit où on peut venir bouquiner, dessiner, peindre, enfin finalement, en fait, faire pas mal de choses. Et il n'y a jamais personne qui vous donnera un regard de travers parce que vous êtes là depuis trop longtemps et que machin, il n'y a pas de pression de consommation, la plupart des événements, ils sont à prix libre. Donc on a des gens qui donnent, il y a même des gens qui sont très généreux, mais il y a aussi plein de gens qui ne donnent pas. Enfin ça pour nous, c'est une réussite qui est importante.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Ce reportage a été réalisé par Margot Doucet pour L'Autre Radio. Vous écoutez l'AJT du local sur L'Autre Radio 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. Avant de vous écouter dans quelques minutes, Priscilla, pour votre chronique juridique, Lucie, tu nous proposes un morceau.
Et oui, aujourd'hui, j'ai eu envie de proposer un artiste que les plus audiophiles d'entre vous connaissent peut-être déjà. Il s'est beaucoup intéressé à la musicalité des bruitages dans son album Folly Room. On écoute Amon Tobin et son morceau At the End of the Day. Thank you.
On parlait humour, stand-up ensemble en début d'émission, mais aujourd'hui, c'est le jour de votre chronique juridique, Priscilla. C'est à vous, on vous écoute.
Salut mes petits avocats, sauce cocktail. Le thème de la chronique de ce jour est « On ne peut se faire justice soi-même ». Pas de latin cette fois-ci, pas d'adage. C'est aussi réjouissant parfois de se contenter de la langue de Pierre de Mer, même si on ne sait pas où elle a traîné.
Mais il est belge et non français.
Ah, autant pour moi. Ça fait quand même beaucoup de défauts pour une seule personne. Alors, se faire justice soi-même, ça semble être un concept simple à comprendre, comme un épisode de Demain nous appartient ou d'Un si grand soleil. En effet, même si on fusionnait les deux séries, on n'arriverait pas à rendre ça assez complexe pour un élève de classe SECPA, de toute façon. D'ailleurs, c'est en classe SECPA qu'ils recrutent leurs scénaristes et leurs acteurs aussi. Donc si je devais définir « nul ne peut se faire justice soi-même », je dirais qu'il s'agit de l'interdiction qui est faite à un individu d'obtenir par lui-même la réparation d'un préjudice. Ce, sans recourir à l'institution judiciaire, en estimant être dans son bon droit et en utilisant tous les moyens, y compris la violence. Ah, la violence ! Il paraît que Alexandre Benalla est disponible pour toute action de vengeance impliquant un matraquage en règle en pleine rue. Oui, il a ouvert une agence dans les locaux de l'ancien Tati Barbès. Je glisse ça en passant. Ainsi, mes chers juristes en droit des affaires en spring break à Cancun, vous connaissez aussi cette pratique de la vengeance sous l'expression de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Face aux accusations récurrentes d'une justice trop lente et laxiste, la tentation est parfois grande. Comme celle de mettre un contrat sur la tête de Patrick Bruel quand il sort un album. Mais là, c'est un autre débat.
Et alors, que risque-t-on à se venger, Priscilla ?
Eh bien, se faire justice soi-même, c'est une réaction humainement compréhensible, mais pourtant pénalement répréhensible dès lors qu'on commet un délit pour exercer cette vengeance. Vol, coups et blessures, harcèlement téléphonique, diffusion incessante de l'album de Trois Cafés Gourmands sous les fenêtres de la chambre de ton patron. Ainsi, ton professeur de PS au lycée ne commettait pas de délit quand il te prêtait un survêt hideux et puant. Tu sais, quand tu vas oublier tes affaires de sport. Eh bien là, il ne rendait pas illégalement la justice puisqu'il ne commettait pas de délit, mais il se vengeait juste de sa condition de fonctionnaire ayant un logement de fonction, la totalité des congés scolaires et des horaires adaptés. Ah ouais, bon, en fait, il ne se vengeait de rien du tout, il te narguait, c'est pas la même chose. Revenons-en à nos moutons. Et s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Se faire justice à soi-même peut donc amener son auteur à passer devant la justice pour répondre du délit ou du crime qu'il aura commis pour exercer sa vengeance. Un choix qui peut donc s'avérer particulièrement risqué.
Est-ce que l'on peut néanmoins échapper à des poursuites ?
Mes défenseurs de la veuve et du mocassin, je dois effectivement vous parler d'un cas particulier qui anime souvent les débats judiciaires, c'est celui de la légitime défense. Un acte violent peut-il être légitime ou engage-t-il automatiquement la responsabilité de son auteur, même lorsqu'il agit, il s'agit pardon, d'une réaction à un fait lui-même violent ? Ainsi, un bijoutier est-il légitime à abattre son braqueur, un particulier à abattre son cambrioleur ou Francis Lalanne à abattre son coiffeur ?
Non.
Vous avez donc déjà la réponse. Mes chers commissaires d'injustice, l'article 122-5 du Code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Waouh, longue lecture, je crois que je suis restée plus longtemps en apnée pour lire cet article que pour survivre au parfum brise d'urine du métro parisien. Mais cet article du Code pénal est important. Autrement dit, il est possible dans une situation bien précise de se faire justice à soi-même à travers un cadre légal précis lui aussi. Celui-ci impose donc une réaction proportionnée à l'atteinte, mais également qu'elle soit dictée par une menace réelle et immédiate, excluant ainsi les menaces verbales par exemple. L'acte de défense doit donc être rendu nécessaire dans le seul but de se protéger ou de préserver ses biens et être proportionné à l'agression subie. Enfin, la riposte doit intervenir immédiatement au cours de l'agression et non à l'issue de celle-ci. Tirer sur un cambrioleur en fuite ne peut aucunement constituer un acte de légitime défense, par exemple.
Vous pensez à quoi, Priscilla ?
Eh bien, par exemple, à tirer sur son ex-copain qui fuit une discussion post-rupture. Ce ne sera pas considéré comme de la légitime défense. En effet, recevoir un couteau dans le dos n'autorise pas à lui tirer dans le dos. Allez savoir pourquoi, foutue société patriarcale. Pour conclure, mes agents de police suicidaires, il semble plus raisonnable de faire appel aux institutions judiciaires quand on entend exercer ses droits ou défendre ses intérêts. Même si Daniel Balavoine lui-même disait « Les juges et les lois, ça me fait pas peur », eh bien, il aurait a priori mieux fait de se méfier des hélicoptères. Je vous aurais prévenu.
Merci beaucoup, Priscilla. Merci d'avoir été à nos côtés dans cette émission pour votre chronique, mais également pour présenter le collectif Borderline Comedy Club. Merci aussi à toi, Lucie, de m'avoir accompagnée tout au long de cette émission. Et notre émission s'arrête, mais laisse place à une belle programmation cinéma et littérature aujourd'hui.
Et oui, Margot, la soirée démarre à 19h avec Le Masque et la tronçonneuse. Et c'est aujourd'hui qu'il nous en parle.
Mais de quoi donc ?
Pellicule et alcool au cinéma.
Un vrai sujet, un grand sujet qui sera donc abordé sur nos ondes à 19h. Et on continue la soirée avec Quand la musique est bof à 21h.
Et l'émission se penche sur le film Lost in Translation, qui est une déambulation américano-japonaise à Tokyo. Lost in Translation est écrit et réalisé par Sofia Coppola, rappelons-le, avec Bill Murray et Scarlett Johansson.
Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Et dans ce grand entretien du vendredi, je serai en compagnie de l'association Questandi, qui favorise l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap sur notre territoire. D'ici là, riez un peu, riez beaucoup, c'est bon pour vous et ceux autour. Et c'est aussi une très belle manière de faire le bien.
Mince, c'est fini et j'ai loupé un bout de l'émission.
T'inquiète pas, tu peux la réécouter en podcast sur l'autreradio.fr.